Dans sa série L'écran radiophonique, Radio Canut vous présente un scénario original de Julien Jean-Pierre, Félicie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Enregistrement, CVRP. Félicie était dans sa chambre, assise devant sa coiffeuse à enlever son voile de deuil. Voilà une semaine que ma mère est morte. Il faut que je pense à l'avenir maintenant. Cela ne va pas être facile. Plus d'argent, la guerre qui n'en finit pas. Elle se lève et fait quelques pas dans la chambre. Ranger son voile noir dans la commode. Elle boite légèrement. C'est un rhumatisme qu'elle a pris en soignant sa mère paralysée. Il fallait qu'elle la porte et la soulève. Elle a soigné sa mère durant un an. Elle avait eu une crise cardiaque et ça l'avait paralysée des membres inférieurs. La mère de Félicie, Madame Étienne Julie, était veuve lorsque sa fille eut 5 ans. Elles ont toujours vécu ensemble. Le mari avait laissé une petite rente, ce qui faisait qu'elle n'avait pas besoin de travailler. Les 4 pièces qu'elles occupaient dans un immeuble bourgeois ou dans le quartier du Marais leur appartenait. La mère et la fille se ressemblaient beaucoup physiquement. Elles étaient plutôt petites, boulottes et larges, les traits du visage grossiers. Julie avait élevé sa fille avec beaucoup d'amour et de faiblesse, car elle lui passait tous ses caprices. Lorsque Félicie eut 15 ans, Elle devint plus sauvage et souhaitait la solitude. Elle en avait assez d'avoir constamment sa mère auprès d'elle. À cette époque, un ami de la famille leur proposa un placement sûr en bourse. Il était si convaincant qu'elles acceptèrent. Malheureusement, ce placement se révéla catastrophique et les ruinèrent en partie. Vint loger pour quelques jours chez elle la sœur de Julie. Elle était la femme du général Gaillard. Armance arriva avec sa fille et un nombre considérable de bagages. Son mari avait été muté en campagne. Elle désira, en attendant son retour, s'amuser à Paris. La mère et la fille furent enchantées de cette visite, surtout Félicie. Elle avait enfin auprès d'elle une jeune fille de son âge. Les deux jeunes filles couchèrent dans la même chambre et s'entendaient fort bien. Emmanuelle était fine et blanche, Félicie le contraire. Avec l'accord de la mère, amenait Félicie et sa fille à des bals. C'était la première fois que Félicie allait dans le monde. Elle fut toute surprise et heureuse que l'on s'occupât de sa toilette. On fit venir le couturier, le bottier, le coiffeur. On ne peut pas dire qu'une fois habillée, maquillée, qu'elle était belle, mais ça la rendait plus féminine. Son premier bal, elle était gauche et timide. Elle savait à peine danser. Elle se tenait toute tremblante côté d'Emmanuel à regarder les danseurs. Et puis Emmanuel fut invité pour une valse. Seule et désespérée. Un jeune homme s'approcha d'elle. Lui aussi était seul. Il était beau et jeune. Il l'invita à danser. « Après la valse, s'assirent l'un à côté de l'autre et firent connaissance. Lucie était touchée et heureuse d'avoir un compagnon si charmant. Emmanuel vint les rejoindre. Félicie les présenta.
Adieu, Margarita.
De rien, mon cher.
Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit. Oh, mais c'est trop aimable. Merci bien. Vous êtes gentil. Si, merci. Et bonne nuit, oui. Bonne nuit. Et bon retour, surtout. Au revoir, ma chérie. Au revoir.
Durant plusieurs jours, le jeune homme fit la cour à Félicie. Félicie l'aima. Malheureusement, il apprit que Félicie était pauvre. Il la laissa tomber et n'eut pas le temps de sympathiser avec la cousine de Félicie. Cette rupture blessa Félicie jusqu'au plus profond d'elle-même. Elle l'avait vraiment aimé, comme une vierge qui a du tempérament refoulé. Elle ne supporta pas qu'on l'ait courtisée pour une affaire d'argent. Elle se mit à haïr et mépriser les hommes. Elle se jura que la prochaine fois, elle se vengerait. Malheureusement, les années passaient et il n'y avait toujours pas de prochaine fois. La mère et la fille restaient repliées sur elles-mêmes, enfermées dans leur appartement. Le seul bien qui leur restait. Par manque d'argent, elles ne sortaient plus. La fille passait la plupart de son temps dans sa chambre à faire de la couture ou à lire. Ses lectures étaient surtout des romans anglais et des poèmes de Lord Byron. La mère, elle brodait ou jouait en chantant du piano.
Thank you.
Leur seule sortie était la messe de 11h le dimanche. Parlait presque plus. La mère rêvait de sa vie passée, la fille ruminait et sa hargne sur sa vie présente. Les années passaient ainsi, puis la guerre de 14 éclata. Ça ne changeait rien à la vie des deux femmes, sauf qu'elles avaient peur du canon et que Paris fut occupé ou assiégé comme en 70. En 1916, la mère qui était trop grosse et avait de la tension eut une attaque cardiaque. Cela l'a pris en montant les escaliers. Elle tomba sans connaissance. Le médecin vint, lui fit une saignée. Elle reprit ses sens, mais resta définitivement paralysée. Comme elle n'avait pas les moyens de faire venir une infirmière, ce fut Félicie qui s'occupa jour et nuit de sa mère. Elle le fit sans amour, seulement par devoir. Elle était devenue une femme sec et hargneuse. Elle en voulait au monde entier et à sa mère d'être malheureuse. Elle soigna sa mère durant un an. Les rapports des deux femmes étaient des plus simples. Ce n'était pas ceux d'une fille à une mère, mais d'une infirmière à sa malade. La mère, durant toutes ces années passées avec sa fille, s'était habituée à la chasteresse de son caractère et ça lui paraissait à la longue normale. Mais ça ne l'empêchait pas d'aimer sa fille. Elle la trouvait seulement un peu froide ou réservée. Elle ne s'était jamais posé la question de savoir pourquoi elle ne s'était pas mariée. Elle pensait que c'était à cause d'elle et elle lui en était reconnaissante. C'était peut-être à cause de cela aussi qu'elle lui pardonnait sa froideur de caractère. Un jour revint habiter chez elle Emmanuel. Sa mère était morte. Son mari, capitaine, était à Verdun. Elle n'avait toujours pas de nouvelles. Elle ne supportait plus d'attendre seule les nouvelles de son mari. Alors, elle décida de partir et d'aller vivre quelque temps à Paris. Elle quitta Bordeaux avec seulement comme bagage une valise et un sac à main. La mère et la fille furent surprises de la voir. Félicie se mit à la haïr. Elle était belle, mariée et avait de l'argent. Elle représentait tout ce qu'elle n'avait pas. Emmanuel s'installa dans la chambre de Félicie. Au début, elle voulait aider Félicie dans ses tâches ménagères et dans les soins de la malade, mais Félicie refusa net. Emmanuel était nerveuse, anxieuse. Malgré qu'elle n'avait rien à faire, elle ne tenait pas en place dans l'appartement. Toujours allant, venant d'un point à l'autre, s'asseyant, se levant, pianotant. Elle n'arrivait pas à fixer ses pensées sur quoi que ce soit. Elle allait rarement voir la malade, car elle s'était aperçue que son instabilité la fatiguait beaucoup. La mère avait dit à Félicie de s'occuper de la jeune femme, car elle s'était aperçue qu'elle n'était pas bien. Le soir, dans leur chambre, les deux femmes, une fois que leur toilette était faite, elles étaient couchées dans le même lit. Elles bavardaient toutes les deux. Emmanuel croyait que Félicie était toujours son amie et elle lui confiait tout. Elle était inquiète car cela faisait 3 mois qu'elle n'avait plus de nouvelles de son mari. Au début, Félicie essayait de la réconforter. Puis, peu à peu, elle prit un malin plaisir à la démoraliser. Elle lui disait qu'en temps de guerre, il fallait s'attendre à tout, qu'elle devait être forte. Thank you. Cela lui faisait plaisir de voir sa cousine dépérir. Elle trouvait chaque jour quelque chose pour la faire souffrir. Lui montrer un journal, lui avait des mauvaises nouvelles du front. Parler des tranchées, des bombardements. Elle voulait persuader Emmanuel que son mari était mort. Elle était heureuse de voir la belle cousine dépérir. Un jour, n'en pouvant plus, Emmanuel décida d'aller demander des nouvelles au ministère de la guerre. Félicité avait beau l'en dissuader, elle y alla tout de même. Elle revint avec une lueur d'espoir. On lui avait dit que le courrier avait eu du retard, mais qu'elle ne tarderait pas à recevoir des nouvelles. Dès que Félicie le sut, tous les matins, elle guetta le facteur. Il y avait quelques lettres qu'elle prenait à aller lire dans sa chambre, assis à terre devant sa cheminée. Les jours passaient ainsi. Une fois que Félicie avait fini de s'occuper de sa mère, elle faisait souffrir sa cousine à petit feu. La pauvre dépérissait à vue d'œil, maigrissait, devenait de plus en plus nerveuse. Ces trois femmes vivaient enfermées dans leur appartement, repliées sur elles-mêmes. Emmanuel n'avait plus envie de sortir. Le monde semblait être cet appartement pour elle. Toutes les trois, elles ne sortaient que pour les courses et la messe. Et puis un jour, Félicie amena un journal annonçant qu'il y avait eu une véritable hécatombe à Verdun. Emmanuel ne dit rien de toute la journée. Tôt le matin, elle fit sa valise. Et partit. Elle prit le train comme une folle qui devait l'amener près de Verdun. L'on ne sut jamais ce qu'elle était devenue. Félicie fut attristée de ne plus avoir de souffre-douleur. Elle s'en était habituée. Mais, heureusement pour elle, il y avait sa mère. Sans lui parler, tout en la soignant énergiquement, elle lui fit comprendre qu'elle était de trop. Elle lui faisait sa toilette avec des gestes brusques, sans le regarder, en soupirant. Pauvre femme se laissa dépérir. Elle perdit l'appétit et le goût de vivre. Un matin, Félicie la trouva morte dans son lit. Elle n'avait pas appelé au secours. Elle avait préféré ne pas recevoir l'extrême onction plutôt que de voir sa fille. Et maintenant, Félicie était seule, avec une fortune d'appartement et une petite rente. Les premières semaines, elle ne savait que faire. Elle passait ses journées comme d'habitude dans sa chambre. Puis, un jour, elle décida de sortir. C'était une belle après-midi de printemps. Elle marchait au hasard dans les rues. Paris ne ressemblait pas à une capitale et un pays en guerre. Les restaurants, les bars, les cabarets étaient pleins. L'on voyait les bouteilles vides de champagne dans les caniveaux. Les gradés de l'armée, en permission, menaient la grande vie. Félicie était surprise et heureuse d'entendre tout ça. Ça la détendait et lui fit oublier un peu sa hargne qu'elle avait pour l'humanité. Il y avait sur une place un kiosque à musique où des musiciens jouaient quelques airs à la mode. Elle s'approcha. Avait une chaise de libre, elle s'assit. À sa droite se tenait un monsieur bien mis et propre. Il souleva son chapeau pour lui dire bonjour. Après le concert, elle se leva et sortit du square. Elle fut surprise de voir le vieux monsieur la suivre en faisant de grands signes pour qu'elle s'arrêtât. Il vit vers elle et lui donna ses gants qu'elle avait oubliés sur sa chaise. Le monsieur n'était pas très beau, mais il avait un je ne sais quoi qui fascinait et attirait. Quelques pas ensemble, puis le vieux monsieur se retira poliment. Demain, elle allait faire un tour vers le Main Square, mais cette fois, il n'y avait pas de musique. À un croisement, elle retrouva le vieux monsieur qui s'avança vers elle. Il la salua et lui proposa de s'asseoir sur un banc du square pour profiter du soleil. Elle était fascinée par ce visage viril et fort de caractère. Elle accepta. Sur le banc, ils firent des confidences. Elle lui dit qu'elle vivait seule après la mort de sa mère. Lui était veuf et avait un petit magasin de meubles. Ils sympathisèrent. Une fois chez elle, dans sa chambre, Félicie avait les yeux en feu. Il est pas mal, il a l'air d'avoir du bien, pas trop jeune. Ah, mon mignon, tu vas voir, je vais me faire épouser, lui faire croire que j'ai les biens. Et qui sait, peut-être, ferai-je une veuve très respectable. Une bonne rente, c'est ce qu'il me faut. Et puis, il est bel homme. Désormais, ils se voyaient tous les jours dans le petit square et se disaient leur peine, leur solitude. Un jour, il l'invita au restaurant. Un autre jour au concert. Un soir, en la raccompagnant, il lui demanda la permission de l'embrasser sur le front. Elle se laissa faire. Les affaires marchaient bien pour elle. Le monsieur semblait pris. Le temps passait, ils se voyaient très souvent, sortaient ensemble, allaient au music hall.
Je ne sais pas qui s'est distingué, qui distinguait tout pareil. Je veux parler des autres Merlans, et Dieu sait s'il était pourtant. Voilà pourquoi chaque dimanche, je remettais ma robe blanche pour me promener dans la forêt avec celui. Lui-même le temps de crier, le grand Julot l'a descendu à la suite d'un malentendu. Et c'est le couteau qui me l'a ravi, je peux dire qu'il a brisé ma vie, car c'est un coup pour Masséna, au coin du boulevard Masséna. Voilà pourquoi chaque dimanche je ne remets plus ma robe blanche pour me promener dans la forêt avec celui que j'adorais.
Il lui prenait la main gentiment et lui fit quelques petits cadeaux, un châle, des fleurs. Il s'appelait cher ami. S'il lui semblait amoureux, elle n'était pas grisée par lui, mais tenait à se faire épouser. Elle faisait tout pour cela, changeait souvent de toilette, portait quelques rares bijoux de famille qui lui restaient. Elle lui avait raconté qu'elle était issue d'une très riche famille de hauts fonctionnaires de l'État. Le temps passait, la guerre était toujours là menaçante. Un jour, dans un café, Félicie avait confié à Armand qu'elle avait peur des canons, des bombardements et que Paris fut pris. Il lui dit qu'il n'avait une petite maison à la campagne et que si elle désirait, elle refusa net. Et lui dit qu'elle ne vivrait avec un homme que marié. « Eh bien, puisque nous voyons presque tous les jours et que je vous aime, marions-nous ?» Elle fut surprise de cette brusquerie et lui dit « Oui ». Il l'embrassa sur les lèvres, elle rougit. « Écoutez. Nous allons chacun de notre côté faire nos papiers pour le mariage. En attendant, vous ne pouvez pas rester à Paris, ce n'est pas sûr. Vous devez aller chez moi à la campagne. Vous y habiterez seul tant que nous ne serons pas mariés. » Elle accepta. « À la fin de la semaine, je vous emmène là-bas. Vous n'allez pas vous occuper de votre déménagement. Laissez-moi faire. » Vous laissez les clés chez la concierge et les déménageurs s'en occuperont. J'y serai. Elle lui dit oui et but un troisième verre d'absinthe. Il l'embrassa une deuxième fois sur la bouche et ils partirent. La semaine, il vint la chercher. Elle donna les clés à la concierge en lui disant qu'on viendrait chercher ses meubles lundi. Elle partait avec une petite valise et un nécessaire de toilette. Elle était heureuse. Elle commençait à faire ses papiers pour le mariage. Elle avait gagné. Prirent un petit train de banlieue. Ils arrivèrent dans un petit bourg entouré de marais. La villa était un peu à l'écart. Elle trouva la maison délicieuse. À l'intérieur, il n'y avait pas grand-chose, mais elle voulait tout voir. Dans la soirée, après le repas, il lui fit boire du champagne. Elle se sentit lasse. Il mit en marche la cuisinière à charbon. Le feu trépita. Tard dans la nuit, un homme sur une charrette se perdait dans les marais. Lundi à 8 heures, des déménageurs vinrent chercher les meubles.
Les clés, s'il vous plaît.
La voiture de déménagement s'arrêta. Un des déménageurs frappa à la porte du magasin. Faut-il mettre les meubles, monsieur Landru ? Série L'écran radiophonique, Radio Canut vous a présenté un scénario original de Julien Jean-Pierre, Félicie, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.